All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marcillac, gérant de la société Event Etc., qui organise Vélo Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille, une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bienvenue dans ce 5e numéro de All Access. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Aymeric Magne, qui est directeur des événements chez Disneyland Paris. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Je suis donc avec Bastien. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Et on va s'intéresser à votre parcours déjà, et puis à la place de l'événementiel chez Disney. Quelles sont les tendances à venir, à quoi on peut s'attendre, et quel est l'enjeu finalement stratégique derrière tout ça pour un parc d'attractions, de créer des événements. Donc déjà, comment vous êtes arrivé à devenir directeur de l'événementiel chez Disneyland ?
Alors, moi j'ai commencé dans le sport, en fait, dans les droits télé, au sein d'une petite société qui s'appelait Cima International à l'époque, et qui gérait en fait les droits télé africains en langue française pour le compte de CFI et TV5. Et du coup, durant cette filiale, on a récupéré la gestion de l'ESMA, qui est l'European Stadium and Safety Management Association, qui gère en fait... qui est en fait une espèce de task force de réflexion sur la gestion des enceintes sportives et qui nous a amené quelques années plus tard à créer une filiale qui s'appelait Stadia Consulting Group. Et donc là, on a commencé à travailler sur de la gestion de projets de stades. On a travaillé sur plusieurs projets et en parallèle, cette petite société a été rachetée par le groupe Coligny Capital, qui était
plus grosse
aussi,
société.
Voilà, c'était un fonds d'investissement au moment du rachat du Paris Saint-Germain, avec pour objectif de continuer de développer, on va dire, la partie, on va dire, gestion de projet d'enceinte sportive, mais aussi de travailler pour le compte de Coligny Capital sur des projets d'investissement mêlant sport, entertainment et sports venues. Donc le Parc des Princes aussi.
Et du coup, je crois qu'il y a aussi un passage qui vous amène au Brésil après.
Oui, alors en fait, c'est une succession. Donc chez Coligny, on est resté plusieurs années et on est ressorti au moment de la sortie du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'on a été de notre côté racheté par le groupe Lagardère.
D'accord.
Et pendant ce temps-là, en fait, Stadia Consulting Group a développé ses activités. Donc on a travaillé sur quasiment l'ensemble de tous les stades de l'Euro 2016. Moi, j'avais été détaché auprès de la Ligue de foot et de la Fédération française de football en tant que spécialiste stade pour la candidature de l'Euro 2016, auprès de donc Jacques Lambert et Xavier Daniel à l'époque. Et au moment de la revente, en fait, voilà, on a été racheté entièrement par le groupe Lagardère. Et moi, j'ai été en charge du développement international, du développement de venue management, tout en continuant mes activités au sein de l'Euro 2016 et en continuant mes activités en France. Et la nuit, je travaillais notamment sur la partie développement, où là, on a identifié en fait plusieurs pays sur le sports venue management qu'on pouvait adresser. Et en fait, le Brésil est ressorti comme un pays clé et phare, puisqu'il recevait la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Mais surtout parce que derrière, il y avait des modèles de concession d'enceintes sportives qui étaient très similaires à la France et sans exploitants expérimentés. Et donc, du coup, le groupe Lagardère a investi au Brésil avec le rachat de deux stades, un à Belo Horizonte et un à Fortaleza.
Qui étaient des stades de la Coupe du Monde ?
Alors, il y avait un stade Fortaleza qui était un stade Coupe du Monde et il y avait un stade qui était plus petit, donc l'Independencia, qui était un stade centre d'entraînement de la Coupe du Monde, mais qui était l'hôte d'un des plus gros clubs de foot brésilien, qui est l'Atlético Mineiro,
d'accord,
qui a notamment eu Ronaldinho.
Et donc ça, c'est le Brésil. Et vous restez jusqu'à la fin de la Coupe du Monde ?
Non. Je suis arrivé à peu près 8 mois avant la Coupe du Monde. Donc ça a été 8 mois déjà, en fait. Et le groupe Lagardère n'avait aucun bureau là-bas. Donc en fait, c'était une start-up dans un grand groupe. On était un et on s'est retrouvé au final à 70-80. J'ai fait 4 ans au Brésil, donc c'était très très riche, hein, une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. On a été le stade qui a reçu le plus d'événements à Fortaleza. On avait plus de 60 grands événements par an, ce qui est monstrueux si on compare au Stade de France qu'on fait 28-29 sur ces grosses années.
Donc du coup, pas que des événements sportifs, des événements culturels aussi, etc.
Ouais, alors ouais. On faisait des événements culturels, on a fait le record du monde de futsal, on a fait des festivals de musique électronique, des festivals de musique sertanejo, qui est du country brésilien, donc avec des 40, 45 000, 60 000 personnes. Donc non, on a énormément diversifié, on a aussi créé des activités, on va dire, B2B, dans l'enceinte, que je compte pas dans les 60, on en avait une centaine en plus, donc on était...
Ce qui est intéressant, c'est qu'au début on parle d'immobilier, d'enceinte, voilà. Et très vite on est dans la création de contenu avec l'événementiel, et ça fait un peu le lien avec métier chez Disney.
Et en fait, on a été tellement bon sur l'exploitation de l'enceinte qu'il y a des organisateurs d'événements, enfin, ou en tout cas des marques qui nous ont contactés pour organiser des événements pour eux, et notamment on a organisé deux événements qui ont fait, on va dire, le Just Dance Festival au Brésil, qui était en fait qui est pour Ubisoft, et on a regroupé 200 000 personnes sur 7 sites juste pour c'est un espèce de e-sport, hein, c'est pas tout à fait du e-sport, c'est plutôt du gaming, on va dire, mais ça a très bien fonctionné à un public familial, c'était très intéressant. Et aussi on a fait un festival de musique électronique et country, donc c'était un mix pendant le carnaval de Rio, en fait. Il y avait donc là, c'était vraiment et sur un public cible qui était plutôt ce qu'on appelle au Brésil la catégorie A, c'est-à-dire les gens plutôt très très riches, et sur un positionnement un peu différent et complémentaire à ce qui se faisait sur le carnaval. Donc là, on faisait aussi de l'événementiel en dehors de nos sites.
Ok, et après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous quittez l'Amérique du Sud pour venir sur Paris et travailler chez Disneyland ?
Alors, il y a le contexte, on va dire, de la société pour laquelle je travaillais. Il y a le contexte aussi des opportunités qu'on a eues, qu'on n'a pas finalisé, hein, dont le dossier potentiel du Maracana. Pour être très transparent, c'était dans la presse, donc voilà. Et en même temps, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée comme ça au sein de Disney. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu au groupe Disney dans son ensemble, on se dit que l'opportunité, elle est globale. Moi, je touchais déjà pas mal à la musique, au e-sport et au sport, bien sûr, qui était mon ADN principal. Et chez Disney, on retrouve tout ça, en fait. Et du coup, j'ai rejoint Disneyland Paris en tant que directeur des événements.
Et donc, Disney, c'est la première destination touristique d'Europe depuis 25 ans. Plus de 320 millions de visites depuis 92. 44% de Français à peu près sur le public. Le cinquième pôle hôtelier avec plus de 8000 chambres. Aussi deux centres de congrès, plus de 850 événements par an. Et donc, cette division que vous dirigez, cette division, elle a été créée récemment ou elle existait alors, déjà avant que vous arriviez?
Il y avait une division qui s'appelait Business Solutions, d'accord, qui était sur les événements corporate. Je vois qu'en tout cas, vous avez bien fait réviser vos fiches, hein, parce que les chiffres sont mieux que les miens. Et en fait, moi, on m'a recruté pour, je pense, donner, on va dire, plus d'ampleur à cette partie événementielle. Il y avait des événements live qui existaient déjà avec la Run Disney et avec la Leaders Cup. Et il y avait eu tout premier Electroland aussi qui avait été fait avant que j'arrive. Et du coup, l'idée, c'était un, de développer ces événements live sur quatre piliers que sont la musique, le e-sport gaming, le sport et l'entertainment. Donc ça, ce sont les quatre piliers d'activité qu'on va avoir sur la partie live. Deux, on va dire, renouveler l'activité B2B, puisqu'on a énormément d'événements, mais on veut dépoussiérer un peu tout ça, on en reviendra peut-être tout à l'heure.
C'est la partie que vous appelez Business Solution.
Voilà, Business Solution. La première, c'est Live Event by Disneyland Paris. Et il y a une troisième division qui s'appelle Selection by Disneyland Paris, qui adresse plutôt le public, on va dire, très aisé, qui veut avoir une offre tailor-made sur Disneyland Paris.
Et ça, c'est au niveau mondial, du coup, où on retrouve la même chose aux États-Unis, ou c'est vraiment dédié à Paris? Comment c'est venu cette création d'unité?
Alors, comparé, il y a Disney Event Group existe à Orlando. Eux, ils organisent beaucoup plus d'événements que nous, mais il n'y a pas la partie live, en fait. Donc, en fait, ils organisent des événements, ce qu'on appelle internes, que nous aussi on organise, qui représente aussi des très gros événements, parce que les événements internes, ça peut aller jusqu'à 15 000 personnes, hein, puisqu'il y a 16 000 salariés sur le site, qui fait du B2B et aussi ce qu'on appelle nous Selection, c'est-à-dire mais ils n'ont pas du tout la partie live, en fait.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Disneyland Paris est précurseur ?
Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ils ont quelques événements live qui sont sport, enfin sur les runs, mais c'est vraiment du classique sport. Et pourquoi? Parce que on a eu en fait, je pense, l'opportunité de pouvoir développer des événements musicaux. Ces événements musicaux, ils ont plutôt bien marché dès la première édition. Et on va dire qu'on peut être, nous, on est un petit parc par rapport à Orlando. Par contre, on a ce qu'on appelle un parc boutique. Et du coup, on a aussi des petits Français dans un monde américain avec plein d'idées. Et je pense qu'on peut se permettre de tester des choses qui peuvent peut-être moins tester aux États-Unis parce que c'est des ampleurs, des échelles énormes. Et du coup, là, ça a bien marché. Donc, on a été très proactifs. Ils ont recruté aussi des gens de l'externe, hein, donc dont moi. Et je pense que ça fait partie aussi du mouvement de vouloir aller chercher des compétences différentes, que ce soit le sport surtout. La gestion événementielle et la gestion des expériences.
Pour les gens qui ne connaissent pas Orlando par rapport à Paris, c'est quoi? C'est de 1 à 2 la différence en termes de taille, à peu près, en grande masse?
Je pense qu'en termes de taille, c'est la taille de San Francisco, Orlando. Et nous, enfin, je pense que c'est au moins en termes de taille, parce que ce n'est pas tout à fait comparable, parce qu'on a une densité plus forte chez nous, mais on doit être au moins, je ne peux pas vous le dire, mais au moins 30 fois plus petit. Hein.
D'accord.
Je parle en termes de taille. Après, sur les parcs, ils ont 5 parcs. Nous, on en a 2. Mais ils sont plus gros, leurs parcs. Mais un bon comparatif, c'est le nombre de chambres. Eux, ils en ont 28 000, quand nous, on en a 7 000. Donc là, ça fait un bon ratio.
Oui, ça permet de se rendre compte.
Voilà, okay. Ça permet de se rendre compte. C'est plutôt 4 à 5 fois
plus petit, mais plus innovant avec cette division, notamment Live Events, qui est une particularité de Disneyland Paris. Comment l'équipe est organisée? C'est que des internes ou vous avez aussi beaucoup d'externes sur ces événements cibles?
Alors, moi, je viens d'arriver il y a un an et demi, donc on est environ 200 dans la division. Et sur cette division, on va dire, si on prend que la partie, on peut pas séparer en fait toutes les divisions parce qu'il y a des services support. Mais en gros, il y a la partie donc selection qui est un peu isolée. Et ensuite, on a trois pôles. On a un pôle de créatifs, donc ce sont des show directors ou des motion designers, comme on les appelle, qui font en fait tous les concepts des événements. On a derrière la partie organisation des événements, et là c'est de la pure organisation de gestion de projet, organisation d'événements, et la partie business development and sales, qui elle est aujourd'hui depuis quelques mois à merger entre ce qu'on appelle le MICE, donc le B2B, et le live, puisqu'on se rend compte que ce sont des expériences qu'on va aller chercher, des expériences différentes, et c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre dans une même division. Je pourrais y revenir après plus tard si vous voulez.
Et du coup, l'objectif de cette division, quand elle a été créée, c'est pour développer un nouveau public, pour apporter un chiffre d'affaires complémentaire. Quel est l'objectif?
Je pense qu'en fait, c'est créer des nouvelles expériences et des nouvelles émotions pour différents types de clients. Aujourd'hui, historiquement, on a des demandes de B2B qui entrent. Hein, donc, et là-dessus, on s'est dit, il faut pouvoir adresser ce marché qui est là pour répondre à une certaine clientèle. Clairement aussi générer potentiellement du chiffre d'affaires avec il faut savoir qu'aujourd'hui on est un parc d'attractions, en fait on est un resort. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a 2 parcs d'attractions, on a 7 hôtels, on a la 5e avenue de France en termes de flux de public avec ce qu'on appelle le Disney Village. On a des centres de convention, donc du coup il faut créer ces flux et la partie B2B, elle a une temporalité qui est différente du loisir, c'est-à-dire que c'est en semaine, c'est pas pendant les vacances, c'est sur des mois, on va dire,
plus faible, pas forcément l'été.
Puisque l'été, on est bien sûr on a une activité tout au long de l'année, mais elle est plus forte sur les bonnes périodes. Et sur la partie live, c'est une offre en fait différente. Une fois de plus, on veut toujours créer de nouvelles expériences à Disneyland Paris sur ce qui est notre ADN. La musique, c'est l'ADN de Disney. Le gaming, il y a quand même une culture un peu geek qu'on peut considérer comme étant assez proche. Le sport, ça fait partie de l'ADN de Disney depuis Walt Disney, qui était lui-même pratiquant de sport. Ensuite, il a voulu décliner ça dans son entreprise. Donc, ses employés pratiquaient le sport. Derrière, on a vu le sport entrer dans les dessins animés. Derrière, on a vu l'acquisition des Mighty Ducks qui a eu lieu dans les années 80, l'acquisition d'ESPN. Et du coup, en fait, vous voyez, tout au long de l'année, aujourd'hui, nous on reçoit on a créé le plus gros complexe sportif aux États-Unis, qui est le ESPN World of Sports à Orlando. Donc, il y a vraiment une culture, d'autant plus avec la tendance sociétale sur le healthy living, où là-dessus, on peut voir aujourd'hui sur toute la Walt Disney Company une politique qui se décline. Et si vous regardez, je crois que c'est les derniers Incredibles 2, il y a le papa et la maman qui arrivent d'un côté avec des frites et de l'autre côté avec des haricots verts. Et au final, les enfants choisissent les haricots verts. Donc j'aimerais bien que ça soit ça dans la réalité, mais en tout cas, on participe à cette culture-là et la pratique du sport en fait partie.
Okay. Alors si on se concentre un petit peu, nous on va regarder plus la partie live events, qui est la partie création d'événements, non pas que la partie business nous intéresse pas, mais elle est, j'ai envie de dire, un peu plus classique, même si le cadre est...
Pas forcément, on est en train d'y travailler, mais on pourrait revenir tout à l'heure.
Mais si on reste sur cette partie live events, si vous deviez mettre dans un ordre d'objectifs, l'objectif d'image pour Disney ou l'objectif de chiffre d'affaires, vous mettriez lequel en avant? Est-ce que c'est surtout de rajeunir, donner une image, communiquer vers l'extérieur et finalement de drainer du trafic grand public pour le parc, ou c'est plutôt vraiment une BU qui a vocation à faire du chiffre d'affaires et du coup...
En fait, j'ai envie de dire, c'est les deux. Enfin,
mais dans quel ordre?
Il n'y a pas d'ordre. Aujourd'hui, innovation et créativité, c'est la base de Disney. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est créer de nouvelles expériences. Et clairement, quand on parle de ROI chez Disney, le premier ROI que j'ai, c'est ce qu'on appelle la guest satisfaction. C'est-à-dire que sur chaque événement, on calcule le taux de satisfaction des participants. Et donc, c'est ça mon premier ROI, si vous voulez la réponse. Et clairement, si on voit l'évolution depuis 2 ans des taux de satisfaction, on est sur des croissances à 2 chiffres. Je parle pas financièrement, je parle bien. Et donc, c'est assez impressionnant parce que les taux de satisfaction d'Electroland ou de la Run Disney, on les a fait monter de plus de 10%. Et sur Electroland, on a 98% de taux de satisfaction. Satisfait, très satisfait et super satisfait. Ce que je veux dire, c'est le record en termes de satisfaction sur tous les événements jamais organisés à Disney.
D'accord. Petite question technique, comment vous, parce que d'autres organisateurs nous écoutent, comment vous faites-vous pour mesurer cette satisfaction? Est-ce que c'est de l'enquête terrain ou
C'est de l'enquête terrain. C'est de l'enquête terrain. On va récupérer, on va discuter avec les gens. On récupère, alors, soit on fait l'enquête sur place, soit on arrive à avoir une enquête qui est ensuite envoyée, avec bien entendu l'accord des personnes. Et on se base sur des échantillons qui sont relevant, on va dire. Et en général, les gens sont assez à même, en tout cas chez nous, de vouloir répondre.
Tout à l'heure, vous parliez beaucoup de créer des événements et vous l'avez rappelé, l'univers de Disney, c'est de la création. Aujourd'hui, vous êtes dans de la création pure et dure d'événements ou est-ce que vous faites aussi des coproductions avec des organisateurs qui viennent vous voir en disant « Voilà, vous avez un lieu, des marques et j'ai un concept et potentiellement on peut le coproduire ensemble » ou est-ce que vous êtes fermé à ça et vous produisez vos propres événements en les créant de A à Z?
Comme je l'ai dit, nous on est ouvert à tout. On a trois types de, c'est pas des business models, mais de manière de recevoir ou de produire des événements. On a la manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on reçoit l'événement. On est un site hôte, qui n'est pas l'option privilégiée, honnêtement, puisque on veut se différencier sur nos événements par rapport à d'autres venues. On n'est pas une venue, on est Disneyland Paris. Le deuxième, c'est la production pure. C'est ce qu'on fait sur la Run Disney, sur Electroland, sur la Pride. Et là-dessus, from scratch, hein, on crée l'événement. On prend le risque financier.
Si vous devez nous pitcher ces trois événements, en quelques mots, ça serait quoi?
Sur la Run Disney, c'est la course la plus lente du monde, mais avec le plus d'émotions. C'est-à-dire qu'on court sur différents types de courses, donc c'est accessible à tous, hein, ça va du 5 km au semi-marathon. Et on a des caractères tout au long du parcours. Donc on est là à la fois pour, on va dire, courir, potentiellement s'amuser, sans objectif, enfin avec un objectif ou pas de compétition. C'est à nous de choisir. Donc c'est pour ça que c'est très accessible. Et on a des publics très divers qui parfois sont des gros compétiteurs, mais on a aussi des gens qui n'ont quasiment jamais couru. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup d'émotions. Bah, la Pride, c'est en fait la diversité à Disneyland Paris. Et c'est la première fois qu'au sein de la Walt Disney Company, on a 100% produit un événement Pride. Donc ça montre l'intérêt de Disney à travailler sur la diversité et l'inclusion. C'est une grande fête qui change les couleurs du parc. Des artistes, des parades, des caractères qui sont aussi déguisés de manière Pride. Donc c'est extrêmement festif et extrêmement, extrêmement intéressant parce que ça change la couleur du parc. Et Electroland, tout simplement, parce que je pense qu'on a bien sûr qu'on a toujours des line-up et des DJ qui font partie des plus grands mondiaux, mais derrière, on a tout un concept avec des remixes de chansons Disney par les DJ, bien sûr les attractions ouvertes, et du coup,
c'est du coup assez... là vous capitalisez aussi sur les contenus propriétés Disney qui sont ces chansons.
Alors oui, et je vais même répondre, on ne capitalise sur tous nos événements 100% produits, on est obligé, enfin en tout cas c'est notre ADN et on veut pas se... c'est nous qui nous obligeons à faire ça. On veut pas recevoir un artiste pour le faire se performer. Et c'est tout. Nous, on doit venir avec toute...
Il faut qu'il y ait un lien avec Disney.
Il faut qu'il y ait un storytelling, il faut qu'il y ait un story living, donc, pour que l'événement, que les gens sortent avec une expérience différente. Et c'est du only Disney can do, donc on essaie de faire un lien. Parfois, c'est plus ou moins difficile. Vous pouvez me dire sur la Pride comment on pourrait faire un lien ou sur Electroland, mais au final, on y arrive parce que le premier événement que j'ai fait, donc, c'était Electroland. Et quand le DJ... Enfin, j'ai entendu un grand cri dans la foule et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de sécurité. Et en fait, c'était le DJ qui remixait Lion King et tout le monde est devenu fou. Donc, en fait, on touche un ADN complètement différent. Donc, et au final, ça marche parce que ça ne nous met pas du tout en concurrence ni avec l'Accor Hotel Arena, ni avec le Stade de France ou la Défense Arena. On est Disneyland Paris.
Oui, c'est qui vos concurrents? C'était une de mes questions. Comme ça, si vous deviez dire sur la partie live events, qui sont vos concurrents?
Alors, est-ce que c'est arrogant ou pas? Pour nous, on n'a pas de concurrents, puisqu'on fait des événements qui sont différenciants et qui vont créer, une fois de plus, j'insiste beaucoup sur le mot expérience, mais des expériences qu'on va avoir qu'une seule fois. Donc, je ne pense pas qu'on ait les mêmes émotions que sur un concert classique ou sur un événement sportif classique. On va chercher aussi un peu d'ADN Disney ou en tout cas de l'ADN Entertainment chez Disneyland Paris.
Pour revenir un peu sur Disney Run, quand vous organisez les événements, du coup, ils doivent être en dehors des horaires d'ouverture du parc. Comment est-ce que vous gérez un petit peu ces éléments? Donc, il y a probablement des contraintes aussi. Et comment c'est perçu par les équipes, du coup, qui sont là pour faire en sorte que le parc vive de manière classique, on va dire? Comment se passent les relations, du coup, sur ce type d'événement?
Ça, c'est une très bonne question parce que on n'est pas... Enfin, moi, j'ai géré des stades, j'ai géré des événements. Gérer un stade, j'ai envie de dire, c'est très facile. Enfin, c'est un parc d'attractions parce que le parc d'attractions, son activité principale, c'est les tickets parc, avec la qui implique de la restauration, qui implique du merchandising, des flux énormes sur des horaires en gros de 10h à 20h en fonction des parcs ou 10h 23h. Donc nous, on vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe parfois. Alors sur la run, c'est un départ assez tôt. On a la 5 km qui est de nuit. Donc ça, on arrive juste après la fermeture du parc. Sur la 10 km, on arrive à arriver vers 10h environ, ce qui est quasiment l'ouverture du parc, même s'il y a un early opening à 9h, mais il y a beaucoup moins de monde et on bloque une partie du parc. Par contre, sur le semi-marathon, on arrive à 12h30. Et là, c'est une logistique, c'est-à-dire qu'on le fait passer dans... Puisque l'objectif aussi de la Run Disney, hein, c'est de passer dans des coulisses, mais aussi dans les parcs, ce qui fait que c'est une des seules courses, même aux États-Unis, ils ne passent pas dans les parcs. Donc, il y a une partie qui est dehors quand même sur le semi-marathon. Mais derrière, les équipes, en fait, c'est prévu en avance. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est des... Pour la partie opération chez nous, c'est des projets exceptionnels. Et donc, c'est des projets où, en fait, tout le monde s'investit énormément. Et les salariés de Disneyland Paris sont très investis dans leur travail. Et avoir la run, pour eux, c'est tous les ans, en fait, quelque chose qu'on attend. Ils travaillent plus, donc bien sûr, ils respectent les horaires légaux, mais je veux dire, c'est plutôt en fait une espèce de petite... Une petite
ça
fête
change du quotidien,
exactement.
Finalement, et ça vient amener...
Voilà. Et sur les autres live events type Electroland, on ferme une heure en général plus tôt le parc, et ce qui veut dire qu'on ferme à 19h, on commence à 20h, 20h30, le temps de faire les contrôles d'accès, etc. Donc on impacte un petit peu le parc, mais pas forcément trop.
De ce qu'on voit, c'est quand même finalement une exploitation. Finalement, vous travaillez surtout quand il y a des périodes de creux, vous le disiez tout à l'heure, sur la saisonnalité, mais là aussi sur les horaires, à part sur ce semi-marathon.
Bien sûr, parce que derrière, l'objectif des live events, c'est aussi c'est de faire venir de nouveaux publics. J'en ai pas assez parlé tout à l'heure. C'est de travailler sur les horaires creux.
Quand vous dites faire venir de nouveaux publics, c'est par exemple faire venir des millennials sur Electroland. Le but, c'est qu'ils reviennent après dans le parc d'attractions, en famille ou avec des amis, ou c'est pas forcément?
Le but, de toute façon, c'est qu'ils reviennent au parc, c'est qu'ils reviennent l'année d'après sur l'événement, et qu'ils découvrent le parc, parce qu'il y a certaines générations qui vont jusqu'à 10-12 ans au parc, après ils oublient un petit peu, et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une stratégie de la marque un peu plus large au niveau de la Walt Disney Company, qui va chercher un petit peu d'autres franchises. Mais du coup, non, on veut qu'ils reviennent. Si on a une bonne expérience sur un événement Electroland, on a beaucoup plus de chances que la personne revienne au parc, mais aussi à Electroland, et potentiellement sur la run ou sur la Pride.
On a parlé de, d'Electro Run, de Disney Run. Je crois que Disney Run, ça marche tellement bien que vous lancez également Princess Run.
Oui.
Bientôt, c'est ça?
Alors, bah, elle est lancée, elle est en vente. C'est assez impressionnant parce que pour avoir travaillé dans le sport, on a beaucoup, beaucoup de problèmes de flux, ce qu'on a moins chez nous. On a lancé la Princess Run là, qui va avoir lieu le 8 mai. Et les ventes partent très bien. La Run Disney, c'est simple, hein, on fait... sold out sur quasiment toutes les courses en quelques minutes.
C'est combien de personnes, la run ?
29 000 sur la run. Et sur la Princess Run, on va aller maximum à 18, puisque cette année, on a fait une 5K et une 8K. Donc, on veut d'abord tester un peu le produit.
Alors, c'est quoi le produit ?
C'est quoi le produit ? En fait, c'est une course immersive, alors avec qui sera thémée princesse. Donc ça veut dire que les caractères qui seront présents sur le site seront orientés princesse. Alors ça peut être des princesses, ça peut être des princes. Alors que sur la run, chaque année on a une thématique
qui change en fonction de l'univers.
Qui change en fonction. Mais là sur la princesse run, voilà, c'est aussi lié à toute la stratégie, enfin toute l'empowerment féminin. Qu'on met en place.
C'est une course exclusivement féminine,
non,
ou pas du tout ?
Pas du tout. Justement, on veut que les personnes viennent en famille, clairement, que les hommes viennent courir. Sur la run classique, on est à 58% de femmes. Sur celle-ci, on ne voudrait pas monter à plus. Je pense que potentiellement, naturellement, il y aura peut-être plus de femmes, mais on veut aussi que les hommes courent, ils accompagnent leurs femmes, que potentiellement, s'ils veulent se déguiser en princesse, ils sont bienvenus aussi. On le voit, hein, c'est assez marrant parce que la différence avec une run classique, il y a beaucoup de gens qui viennent déguisés. Qui s'amusent sur des durées
courtes, on n'a pas besoin d'une préparation physique extraordinaire.
Voilà. Exactement. Après, s'il y en a qui le préparent, tant mieux. Enfin, c'est chacun en fait fait comme il veut.
Sur Electroland, on est sur un public plus jeune. On vend de l'alcool, j'imagine. On a d'autres problématiques de sécurité. Est-ce que ça était un vrai chamboulement dans l'approche de l'accueil visiteur pour vos équipes ? Parce que accueillir des enfants qui viennent voir Disney ou des jeunes qui viennent faire la fête, c'est pas forcément la même approche.
Disons que. On a pris les mesures, mais chez Disney, la sécurité, c'est le site le plus sécurisé d'Europe. Donc, on a très peu de problèmes de sécurité. Sur le public qu'on a, on a renforcé le dispositif de sécurité pour être sûr, mais aussi les personnes qui se rendent sur site, ils savent qu'ils sont à Disney. Donc,
oui, c'est pas comme un champ.
Exactement. Et du coup, le comportement n'est pas le même. On est dans un parc d'attractions. Hein. Les attractions sont ouvertes, donc on se comporte différemment. Donc on n'a pas eu de problème sur Electroland. Au contraire, hein, si on a un taux de satisfaction à 98%, ça veut dire que on est sur une organisation qui est très peu perfectible. Non, on n'a pas eu de problème. Et clairement, ça, c'était nouveau pour nous. Mais ça, voilà.
Tout à l'heure, vous disiez, on n'a pas forcément de concurrents parce qu'on a vocation à créer des choses uniques. Mais je pense qu'il y a des organisateurs de festivals, par exemple, notamment électroniques, qui peuvent vous voir, vous, comme un concurrent. Quels sont leurs retours ? Est-ce que vous avez, vous, des échos là-dessus ?
Je pense que oui, dans ces cas-là, ils peuvent nous considérer comme concurrents. Après, nous, on n'est pas non plus sur des volumes monstrueux. Hein. On n'est pas sur du...
C'est quoi, combien de participants au festivalier ?
Nous, on est à 10 000 par soir sur cette année. Sur 3 soirs, ça fait 30 000 personnes. Ce que je veux dire, c'est que si on compare avec des autres festivals qui sont à 100, 150 000 personnes, oui, on va aller chercher du volume. Mais potentiellement, on a une offre, pour moi, une fois de plus... qui est complètement différente. Les festivals, d'ailleurs, les personnes qui se rendent à Electroland, ils sont potentiellement aussi festivaliers d'autres, mais c'est pas forcément la même chose que viennent chercher les participants à Electroland que s'ils vont à Lollapalooza, à Solidays ou à Tomorrowland.
On reste quand même sur un public francilien sur ces événements-là, ou est-ce que, comme le parc, vous êtes capable d'attirer des gens qui viennent de très loin exprès pour ces événements ?
On est capable d'attirer de très loin. On a sur notre, on va dire, on a une dizaine d'événements live par an. Et en fonction des événements, vraiment, on a une population complètement différente. Si on parle de la run, on est sur des taux, je pense, à 60% d'étrangers environ. Si on parle d'Halloween, on est à 66%. Mais si on parle de... ce qui est énorme. Mais ça, ce sont des produits très spécifiques. Si on parle d'Electroland, Pride ou Disney Love Jazz... On est un peu moins sur l'international, mais on est quand même à minima entre 25 et 30% d'international sur Electroland. Ça dépend aussi des line-up qu'on a en face. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher de l'européen, du distance, ce qu'on appelle distant France, et aussi, bien entendu, du local.
Qu'est-ce que vous appelez un distant France ?
C'est toute la France hors de France. Puisque aujourd'hui, comme on a...
Parce que derrière, il y a l'enjeu qui dorme chez vous. Ou pas forcément ?
C'est toujours mieux qu'ils dorment chez nous. Hein, mais du coup, nous, une fois de plus, on vend sur Electroland, on vend 3 jours. Donc, on espère que ce qu'on va chercher, c'est une expérience immersive. Expérience immersive Disney, ça veut dire le plus la personne vient et dans la bulle Disney, et le plus il a d'émotions, le plus on sera content. Parce que derrière, c'est aussi ce qu'ils vont aller chercher sur Electroland. Ils vont chercher quand même un petit peu de Disney. Aussi, bien entendu, et la première raison, ça doit être certainement le line-up. Mais derrière, clairement, la deuxième, ça doit être la partie entertainment qu'on vient amener chez Disney et la partie immersive.
Parmi ces différents événements, il y a une volonté forte également, c'est d'aller vers l'e-sport, avec une volonté de devenir capitale européenne de l'e-sport. Aujourd'hui, quels sont les événements e-sport que vous accueillez? Quelle est la stratégie autour? Et puis après, on va parler un petit peu des tendances et des nouveaux événements.
Alors, l'e-sport, oui, on s'y intéresse. Et en fait, on a une stratégie, on est monté en puissance, on va dire. On a testé le marché il y a un an et demi, un peu moins. On a reçu la finale du LoL Open Tour. Voilà, c'était un test, c'était une coproduction. Et derrière, ça nous a amené, en fait, les gens ont compris, les organisateurs d'événements ont compris l'intérêt, en fait, de faire quelque chose à Disneyland Paris sur cet aspect un peu immersif. Et donc, on a organisé un Major Dota 2. Donc, Major Dota 2, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est un des troisième plus gros jeux dans le monde du e-sport. Ceux qui ont les plus gros filles à la fin. Et du coup, il y a un organisateur chinois qui est venu nous voir pour l'organiser à Disneyland Paris. On a fait une coproduction. Ça a été un succès.
Oui, puisque sur l'e-sport, vous serez quand même contraint par le fait qu'il y a des détenteurs de droits au niveau des différents jeux et des compétitions, souvent de co-organiser avec eux.
Pour moi, ce n'est pas une contrainte de coproduire. Au contraire, 1 plus 1 égale 3. Coproduire avec des experts d'une industrie, que ce soit du sport, de la musique ou du e-sport, je pense qu'on a toujours, on s'y retrouve tous à travailler ensemble. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Et du coup, on a organisé cet événement qui a été un succès. On a eu 90 millions de viewers individuels, ce qui est, je pense, l'équivalent d'un match de Coupe du Monde. Hein. Donc c'était et sur des marchés un peu différents et originaux, puisque Dota, en France, c'est pas forcément extrêmement connu. Par contre, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Asie, c'est très connu. Donc, ça a été un succès. On aurait pu faire mieux. Mais il y a eu des timings de négociation et des timings d'organisation qui n'ont pas permis, en fait, d'organiser exactement ce qu'on voulait. Et on travaille là sur le futur, sur d'autres événements qu'on annoncera bientôt.
Vous disiez 90 millions de viewers. Et là, on touche à un des points qui est intéressant dans le modèle économique du e-sport. C'est qu'on sort du modèle classique, billetterie, merchandising, éventuellement les partenariats. Est-ce que sur cette partie streaming en ligne, vous étiez aussi rémunéré?
Non, enfin pas, non, on n'était pas rémunéré. Après, on avait des accords avec des agences et en plus, on était coproducteurs. Donc, c'était surtout l'autre partie qui traitait cette partie-là. Oui, le streaming, enfin les partenariats, c'est une part importante sur ces et la billetterie, à mon sens, c'est encore une part petite puisqu'on est sur des tickets moyens très bas parce qu'on essaie de populariser. Voilà, nous, on était plus élevé que le marché, on était sur 35, 50 et 100. Et le 35, il n'y en avait quasiment pas, donc c'était plutôt du 50-100 et voire même 150 ou 200 la finale. Donc c'est des tarifs assez élevés, mais c'était une volonté parce qu'on pense que déjà on avait une capacité qui n'était pas. On était à 4500 personnes par jour, ce qui est une petite capacité, et qu'on pense aussi que l'e-sport a une vraie valeur et on va réussir à le monétiser. Je pense que tout le monde va réussir à le monétiser. Il faut juste que l'industrie se dise aussi, arrêtons d'aller chercher que du pur fan, allons chercher du plus global, mais en y ajoutant de l'entertainment. Et c'est là-dessus, en fait, que nous, on veut apporter quelque chose d'un peu différent sur l'entertainment. On le voit hein, sur chacun des événements, et notamment la finale des Worlds de League of Legends. Ils ont fait une super cérémonie d'ouverture. Tout le monde est en train de s'orienter vers l'entertainment et nous, c'est notre ADN. Donc, on l'a déjà à la maison.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de concurrence. Vous disiez, parce que Paris dit aussi, et c'est pas antagoniste, Paris dit, on veut être la capitale de l'e-sport. Là.
On est Disneyland Paris, donc on est tous contents. Voilà.
Juste pour faire un petit aparté sur les revenus et les modèles économiques, sur les événements comme Run Disney, Electroland, on est sur des modèles économiques qui sont les mêmes que sur des événements classiques, c'est-à-dire que vous avez aussi des partenaires, enfin il y a la billetterie, vous avez aussi des partenaires ou on est sur uniquement de la billetterie?
Non, on a des partenaires on a soit ce qu'on appelle chez nous des corporate alliances, c'est-à-dire des sponsors, des top sponsors qui peuvent activer ou non sur nos événements. Et on a aussi des sponsors ou des partenariats sur les événements. spécifiques. Et là-dessus, c'est classiquement, enfin, des partenariats classiques.
Tout à l'heure, vous nous disiez que sur, là, on a parlé beaucoup de Live Events. Sur Business Solutions, vous étiez en train de nous dire qu'il y avait aussi tout un chantier pour entre guillemets, le dépoussiérer légèrement. Comment vous procédez et quelles sont les orientations?
Bah, en fait, c'est...
Et peut-être rappeler ce que c'est pour les gens qui nous écoutent.
On organise des événements corporate, donc ce sont des conventions, des séminaires, des congrès.
Donc là, c'est une entreprise qui vous contacte et qui dit « je veux, pour tel événement, louer une salle avec telle prestation ».
Voilà, globalement, c'est ça. Sauf que quand on se rend compte un petit peu de l'évolution de la société, vous avez parlé tout à l'heure de millennials. Quand on interroge les millennials qui sont nos futurs acheteurs et qui sont déjà commencé à être nos acheteurs, ce qu'ils veulent, c'est des expériences. Et quand ils disent, quand on les interroge sur la partie corporate, événements corporate, ils disent voilà, je veux une expérience et j'ai envie de me retrouver un petit peu en vacances. Donc sur ce constat-là, on se dit aujourd'hui, nous, on veut pas être un site uniquement de réception, mais on veut créer d'expériences uniques. On pourrait faire l'événement corporate, clairement y mettre de l'entertainment, puisque c'est aussi un point important dans les conventions, et peut-être des choses différentes. Et des choses différentes, quand on est un businessman et qu'on fait beaucoup d'événements corporate, on a un problème, c'est la famille. Et comment arriver à intégrer la famille dans ces événements corporate? Est-ce que demain, l'événement corporate, c'est pas de se dire, je vais avoir un événement corporate avec ma société, un jeudi, vendredi. Le vendredi, ma famille me rejoint. Je peux même continuer mon événement corporate le samedi. Je laisse ma famille au parc. Et du coup, je peux profiter de mon événement corporate tout en ayant ma famille avec moi, puisque c'est mon principal problème. Donc, c'est des sujets sur lesquels on discute. Et c'est des sujets sur lesquels on discute, mais on y intègre aussi la partie live event. Puisque si on prend, par exemple, c'est sur Electroland cette année. On a discuté avec un sponsor à Beinbev, donc un sponsor de bière, pour qu'ils viennent en sponsorship sur Electroland, ce qu'ils ont accepté, mais ils nous ont dit, et nous on leur a proposé de faire leur convention annuelle à Disneyland Paris, qu'ils ont fait le lundi, mardi, et c'était, l'événement était vendredi, samedi, dimanche, et en fait, on a fait des propositions pour leurs salariés de venir plus tôt, alors soit pour venir faire la fête, en amis ou pas, avec des tarifs spécifiques, soit de venir avec leur famille, et du coup de faire une voilà, donc et en fait l'expérience a été complètement immersive puisque AB&B a été sponsor de l'événement, a pu faire venir ses salariés avant qui ont testé le parc, qui ont testé un événement qui était by the way sponsorisé par eux-mêmes, et ils ont fait leur convention qui était 100% immersive puisqu'elle était aussi sur la thématique du Roi Lion qui était la thématique globale de Disney sur la saison. Donc et là-dessus pour nous c'est du ce que j'appelle du, alors il y en a qui parlent de blazure, moi j'ai envie de dire blazure familial. Blazure, c'est business and leisure, et nous on y rajoute la famille. Et donc là je pense qu'on a l'ensemble des composants pour avoir une expérience exceptionnelle, et on va dire ce qui reste dans les mémoires de tous, mais aussi de la famille et des enfants, ce qui est un point important dans la politique de healthy living global des différentes sociétés. Donc en fait on va sur des concepts qui sont très, on anticipe un petit peu, mais derrière c'est aussi only Disney can do.
Est-ce qu'il y a des, parmi tous les événements que vous avez organisés, comme beaucoup d'organisateurs qui nous écoutent et qui au quotidien ont dans l'organisation des galères, des anecdotes, est-ce qu'il y a un événement particulier dont vous vous rappelez où vous avez dû affronter une difficulté particulière?
Tous les événements ont un lot de surprises. Nous, on est dans un parc d'attractions, donc je ne pourrais pas vous donner des détails puisqu'il y a des détails qui restent confidentiels, mais clairement, on a toujours les aléas, on va dire, du direct.
Et votre meilleur souvenir sur un événement, du coup, chez Disney ou ailleurs, hein, d'ailleurs, dans votre expérience
précédente? Je pense que le meilleur souvenir, c'était la première fois que j'ai assisté à la Run Disney et où je me suis rendu compte de l'ampleur, on va dire, du travail en termes d'organisation, qui était une organisation, on va dire, très matricielle avec les différentes entités de Disneyland Paris. Et qui, à la fin du semi-marathon, tous les directeurs viennent, les vice-présidents viennent à l'arrivée, et on voit les derniers arrivants. Et les derniers arrivants, ce sont des gens qui sont pas habitués à faire du sport, souvent qui viennent des États-Unis, et qui font un effort et qui arrivent en pleurs. Mais à la fois, ils pleurent de souffrance, ils pleurent d'émotion, et du coup, ça donne la chair de poule. À chaque fois que je repense, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Et il y a Mickey et Minnie qui les attendent à l'arrivée. Donc, en fait, on a une arrivée avec énormément d'émotions. Et là-dessus, je pense que Voilà, c'est...
Ça crée du sens.
Ça crée du sens, j'en ai la chair de poule, voilà. Donc,
Ça, c'est des bons souvenirs. Alors, le pire souvenir en événementiel ?
C'est pas chez Disney.
C'est trop facile.
Non, non, mais il y a pas de... Je veux dire, les pires souvenirs en événementiel, au final, on a toujours plein de problématiques et on arrive toujours à les résoudre. Donc, on n'a pas vraiment de pire moment. Honnêtement, hein, je lis chez Disney, il n'y a pas eu de pire moment. J'en ai eu d'autres sur d'autres événements, mais celui-là... Enfin, chez Disney, on trouve toujours une solution à la fin. Donc, on a... Voilà.
C'est un peu le cas de l'organisation événementielle. On est sur le moment, ça nous paraît insurmontable, voilà. Et puis finalement, ça
et
se fait.
Les gens s'en rendent pas compte.
Voilà, et les gens s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, du coup,
pas tous.
Si vous étiez un événement, vous seriez quoi ?
Voilà, bonne question. Electroland.
Et qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez sur un événement ?
Qu'est-ce que je regarde en premier ? Bah, je regarde le setup. Enfin, je fais mon tour de l'ensemble du parc, comme je le faisais dans mon stade, pour vérifier que tout est bien mis en place, qu'on est tout carré, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un guest facing, c'est-à-dire face au guest, qu'on n'ait aucune erreur. C'est-à-dire, ça, c'est très important. Et très souvent, alors chez Disney, on travaille énormément le détail, mais chaque détail compte. Donc, et chaque détail est très important. Donc, voilà, c'est ça que je regarde en premier. Et ensuite, se déroule l'événement et on suit par. Enfin, en fait, on a le même travail pendant toute la durée de l'événement. Mais c'est très important de faire ce round en amont de l'événement.
Aymeric, pour vous remercier, on va vous donner des super pouvoirs et vous pouvez remonter le temps et acheter un billet pour un événement auquel vous n'aviez pas pu assister, celui de votre choix. Ce serait quel événement ?
La cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016, parce que j'étais au Brésil et j'aurais bien voulu être là pour un événement sur lequel on a participé à la candidature. J'ai fait la finale.
C'était pas le meilleur moment.
Et du coup, j'aurais bien voulu acheter un billet, en tout cas pour la cérémonie d'ouverture, ouais.
Aymeric, un grand merci pour cette plongée dans les coulisses de Disneyland Paris et notamment sur la partie événementielle. J'invite tous les auditeurs à partager cet épisode, à le noter sur les différentes plateformes de podcast et éventuellement à réécouter les autres enregistrements.
Merci
à bientôt.
À vous. Au revoir.
Merci.